Bon Seigneur, merci pour cette louange à toute l'équipe. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous venez ici pour devenir meilleur, j'espère. C'est l'objectif quand on se réunit, puis vous qui écoutez ce message sur Internet, que Dieu puisse nous rendre meilleurs. On va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre des Rois, au premier livre des Rois, au chapitre 3. Ce matin, je vais utiliser un texte sur lequel je n'ai jamais prêché de ma vie. Ça fait plus de 10 ans que je suis pasteur et je n'ai jamais lu ce texte dans une église. Donc ça va être une première pour moi. C'est une histoire qui percute. Je voudrais vous parler de l'histoire de la femme et de l'enfant qui a failli être coupé en deux. Heureusement que Dieu est bon. Hein. Vous savez que je vais bientôt être papa, dans une quinzaine de jours normalement. On compte les jours, ça va peut-être arriver. Mais vous, les femmes, vous portez la vie. C'est extraordinaire. Ça vous gâche aussi la vie pendant 9 mois des fois. Hein. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand il fait très chaud. Et je me suis dit, mais porter un enfant, c'est porter un projet de vie. C'est quelque chose qui vous réveille la nuit, c'est quelque chose qui se retourne dans tous les sens, c'est quelque chose qui vous fait vous réveiller à 4 heures du matin comme ça. Nous les hommes, on ne vit pas ça. Si, quelque part si, mais pas pour le même type de bébé. Mais hommes et femmes ici, présents dans cette salle ou qui écoutez ce message, vous portez tous un jour un projet, et c'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin, un projet de vie que Dieu a permis qu'il soit dans votre cœur. On a des projets très très différents, c'est pas forcément un bébé au sens physique, mais ce bébé, c'est quelque chose qui est dans vos entrailles, qui est vraiment au fond de vous-même, ça vous retourne, c'est quelque chose qui vous fait vous réveiller la nuit. Moi j'attends pas dans mon ventre un bébé, hein. Mais par contre ça m'arrive aussi de me réveiller à 4 heures du matin, comme ça avec ma femme on fait match nul. J'attends ma fille avec impatience, mais à 4 heures du matin des fois je me réveille en sueur et en me disant « Elle est où la grande salle? La grande salle elle est où la grande salle ?» Vous voyez, en tant que pasteur, moi j'ai vous, quoi. Et je me suis dit, il faut qu'ils soient bien. Et je ne vais pas leur demander de multiplier les cultes. Je pense à tous les équipiers qui sont dans les services, ou ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui travaillent vraiment pour que vous ayez des cultes de qualité. Puis je dis, Seigneur, tu sais, cette grande salle, une salle de, je ne sais pas, 700 places, Seigneur. Elle est où? Elle est où? Elle est où, Seigneur? Elle est où? Quand est-ce qu'elle va sortir? Elle est où? Et c'est vraiment un bébé, un projet que j'ai dans mon cœur. Vous comprendrez plus tard peut-être pourquoi je dis ça, mais cette semaine, Dieu m'a dit, je sais que tu le veux, je sais que tu le veux très fort. Et Dieu m'a donné une alarme cette semaine. Et là j'ai dit à Dieu, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas si je devais y perdre mes valeurs. Alors on va lire ensemble le texte et vous comprendrez pourquoi. Allez, dans 1 Roi, chapitre 3, on va lire l'histoire de ces deux femmes. On s'accroche, c'est parti. C'est une histoire assez bousculante. Un jour, deux femmes prostituées vinrent chez le roi Salomon, hein, et se présentèrent devant lui. L'une d'elles lui dit, s'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. Mais 3 jours après, elle aussi a mis un enfant au monde et nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Il n'y a personne d'autre avec nous et nous étions que toutes les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a enlevé mon fils à mes côtés pendant que moi je dormais. Et l'a couché contre elle, puis elle a déposé son bébé mort près de moi. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant et j'ai trouvé l'enfant mort. Le jour venu, je l'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. « C'est faux !» interrompit l'autre femme. « C'est mon fils qui est vivant et le tien est mort. »« Mais pas du tout !» riposta la première. « C'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant !» Et elles continuèrent à se disputer ainsi devant le roi. Celui-ci déclara finalement. L'une dit, C'est ici mon fils qui est vivant et c'est bien le tien qui est mort. Mais l'autre dit, pas du tout, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée. Et il dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. Jusqu'à où tu es prêt à aller? Alors, la mère de l'enfant vivant, poussée par son amour pour son fils, s'écria, de grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant et qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre dit, non, coupez-le en deux, il sera ni à moi ni à elle. Alors le roi prononça son jugement et dit, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première des deux femmes, c'est elle. C'est elle. C'est elle qui est sa vraie maman, sa vraie mère. Amen. Ça bouscule, hein? Vous portez tous un projet de vie quelque part. Je sais très bien qu'il y a des couples ici qui ont un rêve d'avoir un plus grand appartement. Vous avez fait le choix peut-être un jour d'arriver en région parisienne pour le travail ou pour une autre raison et votre appartement, il est beaucoup plus petit que ce que vous auriez si vous étiez resté en province ou dans votre île. Et chaque jour, vous allez au travail et vous donnez tout le meilleur de vous-même, vous, monsieur, parce que vous voulez pouvoir offrir à votre famille une chambre de plus. Et en fait, ce projet-là, c'est ce projet d'agrandissement, c'est votre bébé. Vous l'avez profondément au fond de vous. Ça fait des mois que vous travaillez pour, ça fait des mois que vous vous préparez, que vous essayez de donner vie à ce projet-là. Il y a des personnes ici qui sont mères célibataires, qui élèvent seules un, deux enfants, et qui se disent, je veux que mes enfants aient un papa aimant, et vous avez comme ça ce projet qui est dans votre cœur, qui est profondément au fond de vous. Vous voulez chercher un homme qui soit le père de vos enfants, vous voulez comme ceci, comme cela, c'est comme votre projet, c'est quelque chose que vous portez au fond de vous-même. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de concernant l'Église ou concernant le service de Dieu. Vous avez envie que votre voix, elle serve pour Dieu. Vous avez le projet de servir un CD de louange. Ça, c'est votre rêve. Vous ne l'avez peut-être pas dit à personne, mais votre rêve, c'est qu'un jour, vous puissiez chanter sur un CD de louange pour dire merci à Dieu pour toutes les choses qu'il a faites pour vous. Et ça, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans vos entrailles. Ça fait des mois que vous travaillez là-dessus intérieurement dans votre tête. C'est votre bébé, c'est votre projet. Comme pour vous dire, moi mon projet, c'est une grande salle. J'en rêve, j'en fais des cauchemars. C'est mon bébé à moi. Et je le vois qui est en train de commencer à sortir, puisque je vois les choses qui avancent. Je me dis, waouh, ça vient, ça me retourne. C'est mon projet de vie. Voyez cette femme, quand vous regardez le chapitre 3, au verset 16, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Elles avaient un bébé. Et une qui avait un bébé. Et je pense à cette femme, cette première qui a son fils là. Dieu vous a confié un projet. Je crois que Dieu, c'est écrit dans la Bible, Dieu a donné à chacun un don particulier. Vous savez que c'est Dieu qui met la vie. Et Dieu aime tellement la vie qu'il ne fait pas de discrimination entre celui qui est bien aux yeux des autres, celui qui a des problèmes, celui qui a des problèmes de caractère, celui qui a des problèmes de comportement, celui qui a une vie qui n'est pas à la hauteur alors qu'il devrait être un homme de Dieu, cette femme qui, alors qu'elle se dit chrétienne, n'a pas encore fait le ménage comme elle devrait dans sa vie. Et Dieu permet, malgré cela, que tu donnes la vie. Et c'est très étonnant. Et je remercie le Dieu de grâce parce que même une prostituée peut donner la vie et c'est extraordinaire. Les hommes aujourd'hui ont imaginé des systèmes. Les systèmes les plus autoritaires ont même permis dans certains pays, même dans des pays qui sont corrects comme l'Australie, que des femmes soient stérilisées parce qu'elles étaient jugées indignes d'avoir des enfants. Dans certains pays du nord de l'Europe pourtant, des pays très protecteurs des libertés individuelles, on a stérilisé des personnes qu'on jugeait indignes d'avoir des enfants. Et je loue Dieu. Parce que pour le Dieu de grâce, peut-être que vous allez me dire, mais un enfant d'une prostituée, qui vit comme ça dans un bidonville, certainement à côté de Jérusalem, dans un appartement où elles sont deux femmes et essaient d'élever leurs enfants. Elle dit, mais ça ne mérite pas, c'est dangereux, quel enfant, quel est son avenir, ça va devenir un cas social, ce gars-là. Mais rien n'est écrit avec Dieu. Les hommes vont faire des statistiques, vont dire, cet enfant, à la naissance, il a tant de chances de devenir un voyou plus tard. Peut-être, mais pour Dieu, dans cet enfant, il peut en sortir un Mozart. Dans cet enfant, il peut faire un homme de Dieu, une femme de l'Éternel, une femme de prière. Rien n'est écrit d'avance. Parce que Dieu fait grâce et redistribue entièrement les cartes. Il dit à chacun, je donne un don de vie. Et votre projet que vous avez dans votre cœur, que ce soit votre appartement, votre CD, votre salle, ce que vous voulez, ou tout simplement que votre couple puisse repartir, etc. Vous avez un projet, ce bébé dans votre cœur, et Dieu permet que malgré toutes vos lacunes, vous puissiez avoir la vie en vous. Ça, c'est extraordinaire. Ces femmes prostituées arrivent devant Salomon, et puis elle dit, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Et ça vient de ses tripes, ça vient d'elle-même. Et je crois que c'est vrai que c'est votre bébé. Mais un bébé, vous voyez, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de biologie, c'est un ADN unique. C'est-à-dire que ce bébé, c'est un mélange de l'ADN d'un papa et de l'ADN d'une maman. Et cette recomposition fait que ce bébé est unique. Il n'est ni papa, ni complètement maman, il est lui. Elle est elle. Parce que ce bébé, tu n'en es pas propriétaire. Tu y es pour quelque chose, parce que si tu n'avais pas existé, ce bébé n'existerait pas. Vous savez que Dieu cherche des êtres humains pour placer des projets qui sont à lui. Et Dieu glisse en toi un projet. Et ce projet, c'est en partie toi, mais c'est en partie Dieu aussi. Vous voyez, on ne peut pas faire un projet tout seul. Moi, je ne peux pas avoir un projet de grande salle si jamais il n'y avait pas Dieu là-dedans. Et si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas rêver de votre appartement si en fait Dieu n'avait pas mis quelqu'un à votre côté qui un jour vous a permis de pouvoir rêver à cela. Vous ne pouvez pas rêver de ce que votre couple marche et qu'il puisse repartir de l'avant si Dieu n'avait pas permis un jour que votre couple existe. Vous voyez, il y a toujours eu une partie qui ne vient pas de vous. Et gardez bien ça en mémoire parce que vers où on va, ça vous serait important. Dieu te l'a confié pour que tu en prennes soin, malgré toutes tes faiblesses. Mais attention, dès que ce bébé, dès que ce projet va naître, il est menacé. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez les versets d'après. À peine ce bébé est né, il a 3 jours. 3 jours après, donc la voisine, elle aussi, a mis un enfant au monde. Nous vivions seuls ensemble dans cette maison. Et il n'y a personne d'autre que nous, et nous étions que toutes les deux. Elles étaient proches, hein? Vous savez, pour se mettre ensemble, c'est que certainement, pendant des mois, peut-être des semaines, des années, elles ont fait des efforts sur leur caractère pour être ensemble toutes les deux. Et puis, or, verset 19, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit et a enlevé mon fils à mes côtés. Pendant que moi je dormais, elle a couché contre elle, puis elle a déposé son bébé mort près de moi. C'est fou quand même. Vous savez que vos rêves à vous, vos bébés, vos projets personnels sont menacés parce qu'il y a d'autres, il y a des circonstances de la vie ou puis des personnes tordues autour de vous vont essayer de détruire, de voler vos rêves, de prendre vos bébés. Ce que vous avez porté, c'est vous qui l'avez porté pendant des mois. Mais il y a des personnes, et des fois ça ne vient pas des personnes que vous pensiez. On pense qu'un ennemi peut nous faire ça, mais on ne pense pas qu'une amie puisse nous faire ça. Et cette femme-là, quand elle voit sa voisine, elle dit « Mais comment tu as pu prendre mon bébé ? Monter un stratagème aussi tordu et machiavélique que me prendre mon bébé parce que tu es mangé, rongé par la culpabilité ?» Cette femme qui est très très malheureuse, cette voisine, elle est détruite. Mais en fait, elle ne supporte pas de voir l'autre heureuse avec un bébé toujours en vie. Alors elle va modifier son comportement, elle qui peut-être avait fait des efforts pendant des années, et elle va commencer à voler le bébé de l'autre. Elle va commencer par jalousie, par envie, tout simplement parce que c'est insupportable de penser qu'elle a tué son bébé. Elle va essayer de voler le bébé de l'autre. Vous savez que c'est très dur, même quand on est chrétien, de se réjouir des rêves des autres alors que Dieu a permis que vos rêves soient brisés. Je ne sais pas si je parle à des leaders, des personnes qui ont des responsabilités un jour, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail. C'est très dur de se réjouir de la réussite des autres alors que vous, vous avez connu un deuil. C'est très, très dur. Et cette femme ne le supporte pas. Alors elle va prendre le bébé de l'autre. Et elle va monter de mensonge en mensonge. Elle va rentrer dans une querelle. Et moi, je pense à la femme dont c'est le vrai enfant, d'accord? Elle dit, il faut que je protège mon bébé. Il faut que je le protège, il faut que je le sauve. Il y a quelque chose d'incroyable. Vous avez vu, elle a dit, j'ai allaité, j'ai voulu l'allaiter, j'ai vu que l'enfant était mort. Et le matin, en regardant attentivement, vous avez vu le verset qu'il est dit? Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant, je l'ai trouvé l'enfant mort, mais le jour venu, je l'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. Sais pas ce qu'il y a, si c'est hormonal, si c'est des odeurs, si c'est quelque chose d'incroyable, mais une mère reconnaît l'enfant. Et même dans la nature, vous voyez ça. Quand, des fois, j'ai vu vous savez, dans les documentaires animaliers, même des animaux sans grande intelligence, hein, au milieu d'une plage de pingouins où ils sont 10 000, la maman pingouin va aller voir où est le bébé pingouin, le numéro 992, qui est en train de se baigner près de lui, elle le reconnaît. Pourquoi? Elle ne l'a pas vu, elle ne l'a même pas vu à la naissance. Mais elle le reconnaît. Le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, il y a une partie qui est que de toi. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre les rêves des autres. Et tu dois à un moment arrêter la jalousie et dire, Seigneur, donne-moi d'enfanter les projets que tu mets dans mon cœur, qui sont à la fois de toi et à la fois de moi. Et cette femme reconnaît ce bébé, elle dit, je vais me battre pour ce bébé. Et s'il faut aller en justice, j'irai en justice. Et à l'époque, aller en justice, c'est aller devant le roi. Alors elle va se battre, elle allait certainement, elle a utilisé son argent pour aller voir les avocats. L'avocat, il allait voir le juge. Et puis le cas devait être tellement compliqué qu'ils l'ont amené directement devant Salomon. Et elle s'en remet à Salomon. Et je pense que ce jour-là, honnêtement, ça doit crier. C'est le mien! Non, c'est le mien! Le tien est mort! Non, menteuse! Parce que c'est une femme qui se bat pour défendre son droit. Elle défend son bébé de toutes ses forces. Elle veut le garder parce que c'est elle la maman et elle veut le garder parce qu'elle veut en prendre soin. Elle veut le garder. Alors ma question, et c'est mon deuxième point et mon dernier point. Jusqu'à où tu es prête, tu es prêt à aller? Pour garder ton bébé avec toi. Le titre de ce message, c'est Je le veux, mais pas à n'importe quel prix. Je le veux, mais pas à n'importe quel prix. Regardez ce qui va se passer. Le roi Salomon dit, amenez-moi une épée. C'est le verset 23. Celui-ci déclara finalement, l'une dit, c'est le mien, l'autre, c'est le mien. Verset 24. Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée. Alors il dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. Vous voyez, je le veux de toutes mes forces. Mais pas à n'importe quel prix. Il y a un moment où il faut choisir entre continuer ton combat jusqu'au bout pour avoir raison. Parce qu'au fait, c'est comme mon fils, quoi! C'est le mien! Donc si elle continue à s'énerver en face du roi, elle va récupérer une partie de son fils, mais mort. Entre continuer ton combat pour garder l'enfant avec toi, parce que c'est juste, ou bien perdre le contrôle et le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il vive. C'est pas juste. Mais vous voyez, il y a un moment où cette femme dit, mon vrai but, est-ce que c'est d'être la maman de cet enfant ou est-ce que c'est que cet enfant est une maman? Réfléchis bien. Et ce que le plus important, c'est que tu sois la maman de ce projet ou que ce projet ait une maman et qu'il vive. Et là, je peux vous dire, il y a un combat à l'intérieur. Des fois, vous avez profondément raison. Et vous avez envie d'aller jusqu'au bout pour que la justice soit faite. Parce que tu es avec ton épouse et que ce matin-là, elle a eu profondément tort dans la façon dont elle t'a parlé. Et tu es dans la voiture. Et la tension monte et les cris commencent à monter dans les aigus entre toi et elle. Et il y a tes enfants à l'arrière de la voiture. Et il y a un de tes enfants qui dit, papa et maman, arrêtez. Arrêtez. Vous savez, si vous continuez la dispute, peut-être que tu vas avoir raison. Parce que tu as raison, c'est juste. Et tu auras des enfants découpés en deux à l'arrière. Alors oui, tu seras allé jusqu'au bout de ton combat. Oui, tu auras obtenu, récupéré ce qui était à toi. Et tu auras des enfants découpés en deux derrière. Il y a un moment où vous devez savoir quelles sont vos vraies valeurs. Si votre valeur, c'est de garder le bébé pour vous, ou bien si votre valeur, c'est que votre bébé vive. Oh, là, ça devient assez dur. Vous voyez, il y a un moment où soit vous écoutez votre tête, soit vous écoutez votre cœur. Et ça me fait mal de ne pas écouter ma tête. Parce que ma tête me dit, Yvan, t'as raison, c'est à toi. Il n'y a pas d'autre maman que toi, c'est pour toi. C'est ton rêve, tu l'as porté, tu le mérites. Et d'un côté, j'entends Dieu qui me dit, Yvan, écoute ton cœur. Même si tu as raison, est-ce que tu es prêt à le confier à quelqu'un d'autre qui ne le mérite pas, mais qu'il saura le faire vivre. Là, je parle à tous les personnes qui un jour ont servi Dieu ou qui servent Dieu. Des fois, qu'est-ce que c'est dur de lâcher prise ? Qu'est-ce que c'est dur de lâcher prise ? Je crois que le monde est rempli d'hommes et de femmes en colère car leur bébé a été découpé. Ils ont préféré avoir raison que d'avoir la vie. Il y a ici, dans cette salle, jeune garçon, une jeune fille, papa, une maman, qui veut tellement avoir raison qu'il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait un mort. Et du coup, tu es en colère avant et tu es en colère après parce que tu regardes l'autre en face et tu dis « c'est ta faute s'il est mort ». Et c'est vrai. Si Salomon avait coupé le bébé en deux, c'est bien à cause de la voisine que le bébé serait mort. Et donc, elle pourrait être toute sa vie en colère et en deuil, en colère et en deuil, en colère et en deuil. Mais il y a un moment, un point de bascule, où elle a dit stop, stop. Ma vraie valeur, c'est l'amour. Ma vraie valeur, c'est l'amour de cet enfant. Plus encore que mon bébé, je veux que ce bébé vive. Je ne veux pas qu'il soit seulement mon bébé. Je préfère que ce projet existe, que ce projet vive, même s'il doit se faire sans moi. Je ne sais pas s'il y a des mamans dans la salle, imaginez ce que ça a dû lui coûter à ce moment-là. De dire à Salomon, donne le bébé à cette menteuse. Donne ce bébé à cette voleuse. Je préfère que tu le donnes à cette femme machiavélique, ce bébé, plutôt qu'il meure. Il est dit au verset 26, on va le lire ensemble. Alors la mère de l'enfant parce qu'il était en vie, vivant. Poussée par son amour pour son fils. Poussée par quoi, mes amis ? L'amour. L'amour. L'amour qui n'est pas de la possession. L'amour, c'est pas posséder. L'amour, c'est donner. Poussée par son amour pour son fils. Ouh, je ne sais pas si je devrais prêcher. Je vais garder le CD un jour si je deviens tordu dans une église. Ça va me servir. Vous me refilerez le CD. Vous dites, pasteur Yvan, tu as oublié ce que tu as dit. Poussée par son amour pour son fils, s'écria, de grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne. Qu'on lui donne le bébé vivant. Qu'on ne le fasse pas mourir. Oh Seigneur. Oh Seigneur. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 nous dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes, même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante, une cymbale bruyante. Je suis peut-être juste, j'ai peut-être raison. Supposons que j'ai le don de prophétie, que j'ai le meilleur ministère du monde, c'est moi qui rajoute. Que j'ai fait des efforts pour me lever au boulot, que j'ai travaillé comme un fou, que c'est moi qui mérite la promotion, que normalement l'appartement doit me revenir, que je comprenne tous les mystères, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je ne l'ai pas, l'amour, je suis rien. Si je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les SDF dans le métro, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Si je le fais pour soulager ma conscience, ça ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Seigneur, c'est-à-dire que je dois me réjouir de ce que l'autre est béni du rêve que je n'ai plus et que j'aurais mérité. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne cherche pas son propre intérêt. Seigneur, je veux que ce rêve que tu as mis dans mon cœur, il puisse faire du bien aux autres. Et si c'est même une maman qui ne le mérite pas, qu'il élève cet enfant, tu m'as donné de l'amour pour cet enfant assez, pour que j'accepte de céder, même dans mon droit, pour qu'il vive. Ça, c'est ma valeur. Ma valeur, c'est l'amour. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste, bien sûr, ça va te ruiner le cœur. Vous ne croyez pas que cette maman, au moment où elle dit « donnez-le », vous ne croyez pas qu'elle est brisée en deux ? Vous ne savez pas qu'elle est attristée au plus profond, lui-même, au profond d'elle-même ? Mais elle dit « je préfère ça ». L'injustice l'attriste, c'est vrai. Mais la vérité le réjouit. Mais en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère que l'autre va bien l'élever et il persévère pour ne pas revenir en arrière une fois qu'il a donné. Wow ! Wow ! Je vais parler vrai pour conclure. C'est là-dessus que je vais vous laisser ce matin. J'ai visité une magnifique église. Il y a quelques jours, je suis allé dans un culte, c'était beau. Je suis arrivé dans la salle, vous savez, je rêve d'une salle et je prie pour ça, mais que Dieu nous donne une salle de 700 places. Je suis arrivé dans une salle où il y avait toutes ces places-là. Ah, c'était magnifique, c'était bien décoré, il y avait de la clim, c'était bien, la louange était magnifique. Louange Afro-Caraïbe, là, c'était énorme, c'était super. Je bénis Dieu parce que vraiment, vous qui êtes des Caraïbes et d'Afrique, vous chantez bien mieux que nous. Et c'était beau, c'était magnifique. Et j'ai dit, Seigneur, waouh, c'est mon rêve, c'est mon bébé, c'est ça que je veux, ça que tu as mis dans mon cœur. Puis à un moment, et parce que c'est. Voilà, tout n'est jamais complètement rose, je voyais aussi d'autres choses. Je voyais une louange Afrique-Caraïbe, et puis je me suis retourné, et puis j'ai cherché un blanc dans l'église. Là, j'ai galéré. Puis je regardais, c'était super organisé, c'était bien, on était bien placés, etc. Puis je voyais des personnes habillées, mais ils étaient beaux, hein, dans les allées. Ils avaient super costumes, ils avaient même les pins de combien ils avaient donné à l'église. Ils avaient tout, quoi. Je me suis dit, Seigneur, je veux une grande salle. Mais pas à n'importe quel prix. Et je me suis dit, là, j'ai eu comme un flashback, si Dieu me disait, en France, les méga-churches, les églises qui dépassent 1000 personnes, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, et je vais rester prudent, c'est des églises qui n'ont qu'une seule couleur, le noir. Et c'est super, parce que c'est eux qui sont réveillés. Et c'est une église dans laquelle le nom de l'église est scandé plus souvent que le nom de Jésus. Parce qu'ils ont besoin, pour fédérer, que l'on cite le logo, le nom du pasteur, tout ça, pour pas que les gens partent. Pour que l'église reste compacte, Elle est très institutionnalisée pour gloire à vous êtes les meilleurs si vous êtes à l'église de. Je me dis, waouh! Je me suis dit, Seigneur, si je veux une salle, un jour de 700 places, je ne veux pas mourir à mes valeurs. Je veux que quelqu'un qui vienne d'Asie, quelqu'un qui vienne des États-Unis, quelqu'un qui vienne d'Europe, quelqu'un qui vienne de la Franche-Comté, quelqu'un qui vienne d'Afrique, quelqu'un qui vienne d'Amérique latine, des Caraïbes, que je trouve extraordinaire, que tout le monde se sente chez lui. Ça, c'est mon. Vous voyez, c'est un peu mon rêve. Maintenant, je me trompe peut-être. Vous savez, je suis sûr. Parce que moi, je le vis comme ça. J'ai fait suffisamment d'églises blanches dans ma vie pour savoir que la louange, elle est moins bonne que la louange aux Caraïbes et en Afrique. C'est vrai. Mais je rêve qu'un jour. Je sais pas, j'en ai jamais vu, je peux pas vous dire si ça va se faire, mais j'ai jamais vu une église qui dépasse 1000 et qui a toutes les couleurs dedans. Et je dis, Seigneur, je rêve que si l'église de Créteil grandisse, on puisse garder encore toutes les couleurs. Je rêve que la louange soit faite par les Noirs, parce qu'ils sont meilleurs que moi. Je rêve qu'il y ait des activités faites par des Asiatiques. Je rêve que les Arabes se sentent à l'aise dans l'église, qu'elle soit multiethnique. C'est dur, on n'arrive pas à le faire. Au bout d'un moment, il y a un groupe qui prend le pouvoir, c'est normal, c'est les hommes. Qu'est-ce que je suis content d'avoir des pasteurs de toutes les couleurs. C'est dur, vous savez, parce que du coup, tout le monde doit faire un effort sur sa culture. Et puis, je rêve aussi que dans l'église, on puisse rester et grandir, parce que vous savez, plus l'église est grande, plus il y a besoin d'argent. Sans avoir besoin de faire passer 4 fois l'offrande en insistant que si vous partez en vacances, vous avez intérêt à donner votre dîme, etc. Je me dis, Seigneur, je veux garder cette transparence, cette liberté. Et c'est dur, parce que quand vous êtes stressé en tant que pasteur et vous ne savez pas comment payer, vous avez envie de mettre de la pression aux gens. Et je dis, Seigneur, je veux une église, mais pas ce prix-là. Je veux une grande salle, mais pas ce prix-là. Alors je suis arrivé devant le Seigneur et puis j'ai dit, Seigneur, si jamais moi je ne peux pas faire cette grande salle, parce que j'y perdrais mes valeurs et mon amour de base, qui est pour une église multiethnique et pour une église de la liberté. Si j'y perds mes valeurs, oh, ça m'a coûté. J'ai dit, Seigneur, donne la grande salle à un autre pasteur. Même si ce n'est pas ma façon de faire, bénis-les, Seigneur. Et je te prie de bénir les autres qui feront peut-être différemment, qui l'élèveront différemment, qui auront une autre vision de l'Église. Peut-être c'est eux qui vont élever le bébé. Mais vous ne savez pas quoi? Je crois personnellement que mon appel reste un appel basé sur mes valeurs, c'est sur. Vous voyez, c'est 50% de mon ADN, 50% de l'ADN de Christophe Hénamé, du Cameroun. Mais vous voyez, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Et je suis tenté, toi aussi, de faire des compromis pour que ton rêve se réalise. Peut-être tu es célibataire et tu dis, il y a un moment, je vais donner un coup de main à Dieu quand même, quitte à y perdre mes valeurs. Il y a un moment où, pour avoir cet appartement, ah, je vais faire un petit arrondi sur certaines fiches de paye. Pour avoir ce CD de louange, je vais jouer un peu de contact et un peu de ragot dans l'église pour pouvoir monter. Seigneur, si c'est l'Éternel qui te donne, c'est la véritable bénédiction. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que l'Éternel donne, il ne le reprend pas. Vous allez dire, mais si, pasteur. Job, il a bien écrit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris que son nom soit béni. C'est vrai. Dieu permet des fois que notre rêve soit menacé. Peut-être qu'on arrive à un point de test, de stress. Où tu dois amener sur l'autel en face du juste juge et dire, Seigneur, si je dois perdre mon rêve, si c'est mon rêve ou le fait que j'ai raison, eh bien sauve l'enfant, même si je dois avoir tort alors que j'avais raison. Et si je dois repartir tout seul, comme cette femme a dû se dire, je vais sortir du prétoire, je vais sortir de la salle de jugement de Salomon avec le bébé pour l'autre, c'est quand même fort! À la base, je suis allé pour récupérer mon enfant. Mais parce que j'ai voulu sa vie, Je vais devoir repartir seule à la maison et elle va repartir avec le bébé chez elle, cette voleuse. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je suis obligé de vous dire, si Dieu a donné la sagesse à Salomon, parce que ce que Salomon avait demandé juste avant, il a dit « Dieu, donne-moi ton intelligence ». J'ai toujours cru que, Salomon avait demandé la sagesse. Ce n'est pas tout à fait la sagesse que Salomon a demandé à Dieu. Quand vous lisez le chapitre juste avant, c'est le chapitre 3, vous allez voir que Salomon demande à Dieu quoi ? Il dit « Seigneur, je veux avoir ta façon de juger les choses ». Alors j'aime bien la fin de l'histoire. Parce qu'après un moment de test, Dieu a dit, comme Salomon a dit, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première des deux femmes, celle qui est la vraie mère. Celle qui est la vraie mère. Est-ce qu'il y a des vrais papas dans la salle ? Est-ce qu'il y a des vrais hommes dans cette salle qui sont prêts à dire « Mes valeurs et l'amour resteront au cœur de toutes mes décisions, quoi qu'il m'en coûte, parce que je préfère la vie au fait d'avoir raison. » On va fermer les yeux ensemble. Il y a des combats dans ton cœur. Et tu es quelqu'un qui a subi tellement d'injustices, peut-être tellement de frustrations. Et pour une fois que tu as un projet qui arrive là, il y a quelqu'un qui essaye de le détruire. Tu as envie de te battre. Tu as envie de te battre. Tu as envie de te battre pour tes enfants. Tu as envie de te battre pour ton couple. Tu as envie de te battre pour ta situation financière. Tu as envie de te battre. Tu es prêt à tout. Et Dieu te dit, jusqu'à où ? Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Cet enfant, Dieu te l'a déposé dans ton cœur, mais c'est le projet de Dieu. Tu aimes ce bébé, accepte peut-être de le remettre à Dieu. Demande à Dieu de te diriger, de te montrer la voie. Si tu as un doute, si tu es déchiré, demande à Dieu sa grâce, la force. Ce n'est pas naturel d'aimer comme Christ. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. L'amour pardonne. L'amour persévère. L'amour est divin. Peut-être tu as besoin de lâcher prise. Une femme dans cette salle qui a besoin de demander pardon à son conjoint. C'est un homme qui doit aller voir sa femme et dire « Chérie, je suis allé trop loin pour avoir raison. Et je mets de côté tout ce qui peut nous séparer, que j'ai tort ou que j'ai raison. Il y a un moment où peu importe. Je dis « Seigneur, sauve mes enfants. » Peut-être tu t'es battu avec ta mère. Peut-être tu as appelé quelqu'un cette semaine et c'est monté, monté, monté. Et Dieu te dit « Wow, pas à n'importe quel prix. T'es une enfant de Dieu, perds pas tes valeurs. » On va se lever ensemble. On va garder les yeux fermés. Je vais demander à l'équipe de musiciens de nous conduire. Mais reste focalisé sur ce que Dieu te dit ce matin.
Montre-moi la voie, dis-moi où aller, tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai.
Alors qu'on est là ce matin, je crois que Dieu est en train d'interpeller quelqu'un et dit « Est-ce que tu es prêt à prier pour avoir le courage de me faire confiance? C'est moi le juste juge. Et plutôt que d'avoir raison, fais-moi confiance. Si moi j'ai donné de la sagesse à Salomon et qui ai pu diriger Salomon dans son jugement, je suis Dieu et j'aurai le dernier mot dans cette affaire. Mais lâche l'affaire. » Présente ton projet à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort. C'est dur. Remets, pose ce bébé à l'Éternel. Fais-lui confiance, il agira. Oh mon Dieu,